Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, affaire braquage de la Rawbank, Honorine Porsche a reconnu avoir commis l'acte parce qu'elle était déprimée et désespérée. Mais, après avoir déchargé ses co-accusés qu'elle dit ne pas connaître, elle charge les militaires PEM et de la Task Force de viols non consommés sur elle, vol de l'argent de la banque et torture. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle à la cohésion nationale pour une paix durable en RDC. Le prélat catholique congolais a évoqué dans une conférence à Rome l'initiative du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble de la CENCO-SCC, appelant à un dialogue national inclusif réunissant toutes les forces vives, y compris celles qui ont pris les armes. Dans plusieurs provinces de la RDC, des enfants continuent d'être enrôlés ou outillés par des groupes armés, malgré les appels répétés à mettre fin à cette pratique. Pour en parler, nous recevons Mathieu Ndongo Koni, le chef intérimaire de la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Il revient sur la situation actuelle et les stratégies de prévention mises en œuvre. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal Parlé du Matin sur la radio de la paix. Rebondissement au procès du braquage de la société Rawbank, l'accusé principal est passé aux aveux. À l'audience publique hier mardi devant le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe, Madame Honorine Porsche a reconnu que l'acte qu'elle a posé le 16 octobre est mauvais et condamnable, mais c'était parce qu'elle était déprimée et désespérée. Après avoir déchargé ses co-accusés, qu'elle dit ne pas connaître, elle charge les militaires PEM et de la Task Force de viols non consommés sur elle, vol de l'argent de la banque et torture. Le tribunal invite les militaires qui avaient déjoué le braquage ainsi que la caissière et les gérants de la banque à une confrontation jeudi. Jeff Ngoïmoulonda pour les détails.
Honorine Porsche, c'est une voleuse volée. Après avoir sollicité une audience sans succès auprès de la première dame, Denise Nyakeru, pour une aide financière afin de payer sa dette locative en Allemagne et subvenir aux besoins de ses enfants, elle dit qu'elle était désespérée et qu'elle n'avait pas un autre choix que celui d'aller intimider les agents de la banque avec une arme factice, sans intention de leur faire du mal, mais de voler de l'argent. C'est du viol, cri qu'elle va lancer deux fois en entrant dans l'agence où les agents, clients, policiers et vigiles, pris de panique, sont restés couchés à même le sol, craignant son jouet comme une arme à feu. C'est ainsi que la caissière va verser dans son sac tout ce qu'elle avait comme argent. Selon sa déposition, les militaires qui sont intervenus se sont d'abord précipités à lui ravir son sac pour se partager le pactole avant de lui infliger les traitements dégradants. « J'étais à bout de mes souffrances. Je prends 7 plis de chanvre par jour d'après ce qu'on m'a demandé en Allemagne pour soigner ma dépression », déclare la prévenue.
Justice encore, cette fois à Kisangani. Le directeur exécutif de l'ONG Action pour la Justice, le Développement et les Droits Humains est désormais libre. Djedi Diamabella est acquitté par le tribunal de paix de Macky Sall depuis lundi 27 octobre où son conseil avait interjeté appel. Il avait été condamné le 2 août dernier à 6 mois de servitude pénale principale par le tribunal de paix de Macky Sall pour propagation de faux bruits. Cela sur base d'une plainte du gouverneur de province. En réaction, l'AJDDH salue cette décision qui, selon elle, consacre la vérité et confirme le caractère arbitraire et politique du jugement de première instance. Ainsi, elle exige réparation pour les préjudices moraux, matériels et institutionnels subis tant par son directeur que par l'organisation. Et puis, lutte contre les financements du terrorisme, une dizaine de magistrats civils et militaires formés aux techniques d'enquête sur cette problématique en Ituri. Cette formation ouverte le mardi à Bunia est organisée par la section de l'appui à la justice de la MONUSCO. Objectif, renforcer les capacités des participants dans l'identification et l'analyse des transactions financières suspectes dans une province où plusieurs groupes armés contrôlent encore des sites miniers servant à alimenter la guerre. Isaac Remoyope, reportage.
10 magistrats civils et militaires ainsi que des inspecteurs de la police judiciaire prennent part à cette formation de 2 semaines placée sous le thème « Crypto-monnaie et échanges chiffrés, nouveaux défis pour la lutte contre les financements du terrorisme ». Les participants apprennent notamment les techniques d'investigation numérique, les méthodes d'anonymisation utilisées par les malfaiteurs, les technologies de chiffrement et les modes de financement en ligne exploités par les groupes criminels. Selon les chefs des bureaux de la MONUSCO en Ituri, cette initiative vise à renforcer l'efficacité des enquêtes liées aux crimes internationaux et au terrorisme dans la province pour une justice plus crédible et adaptée aux réalités actuelles. De son côté, le premier président de la cour militaire encourage les participants à approfondir leur maîtrise des techniques de traçabilité des flux financiers suspects afin d'identifier leurs auteurs et de contribuer activement à la lutte contre le financement des groupes armés. Il a salué le soutien constant de la MONUSCO dans les renforcements du secteur judiciaire en Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Autre formation, c'est celle qui se tient à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. En effet, plusieurs acteurs venus du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema, de l'Ituri et du Tanganyika échangent depuis hier mardi sur les moyens de mettre fin au recrutement d'enfants par les groupes armés dans l'est du pays. C'est dans le cadre d'un atelier interprovincial de 2 jours consacré à l'analyse du recours aux enfants par les groupes armés en 2025, organisé par le réseau régional des organisations de la société civile contre le recrutement et l'utilisation des enfants soldats. Avec l'appui de la section de la protection de l'enfance de la MONUSCO, cet atelier vise à renforcer la coordination et l'alerte précoce entre acteurs provinciaux et nationaux. Martial Papimukeba pour les détails.
À l'ouverture, Joseph Souki Sandayambagé, coordonnateur du PDDRCS au Nord Kivu, souligne que protéger les enfants, c'est construire la paix.
Trop d'enfants sont privés de leur enfance, de l'école, parfois même de leur vie elle-même. Ces enfants ont besoin de notre protection et de notre action déterminée. Chaque enfant que nous sauvons est un pas vers la paix durable.
Pour Eric Kalobera, représentant du gouverneur du Nord Kivu, la répétition des guerres a détruit les structures de socialisation.
Toutes les structures de socialisation connaissent aujourd'hui des fissures. Les familles, les écoles, les barzas, des années de guerre. Et parce que l'enfant est dans un environnement qui n'est plus propice. Et donc les facteurs de recrutement sont en face de cet enfant.
Ali Garba, chef du sous-bureau intérimaire de la MONUSCO à Beni, appelle à agir sans attendre.
Malgré les avancées notables, cette pratique persiste et continue de priver des milliers de garçons et de filles de leur enfance, de leur dignité et de leur avenir. L'année 2025, marquée par une recrudescence de la violence dans l'est du pays, nous rappelle l'urgence d'agir.
Une feuille de route commune est attendue à la fin de ces travaux. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Je le disais en titre, le cardinal Fridolin Ambongo appelle à la cohésion nationale pour une paix durable en RDC. L'archevêque de Kinshasa l'a dit au cours de la rencontre internationale dénommée Oser la paix, une organisation dédiée à la promotion active de la paix tenue à Rome du 26 au 28 octobre. Selon le site officiel de la communauté de Saint-Égidio qui a organisé cette rencontre, le prélat catholique congolais a évoqué l'initiative du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble de la CENCO-SCC, appelant à un dialogue national inclusif, réunissant toutes les forces vives, y compris celles qui ont pris les armes, grâce à Mzati Masanzi.
Dans son intervention, le cardinal Fridolin Ambongo rappelle que selon le pape Léon XIV, une paix des armées ne s'impose pas par la force. Elle ne consiste pas non plus à réunir les belligérants devant les caméras pour signer des accords éphémères. La paix se construit plutôt dans le silence de la vérité, de l'écoute, du dialogue et de la responsabilité envers les victimes. À cet égard, il évoque la situation de son pays, la RDC, où plus de 120 groupes armés restent actifs dans diverses provinces et où les différentes guerres, depuis plus de 30 ans, ont causé des millions de morts, détruit des villages et dispersé des familles, dans un silence coupable d'un monde qui continue à tirer profit du pillage systématique des ressources du pays. Tout en appelant à une paix durable en RDC, le cardinal Ambongo affirme que l'expérience congolaise prouve que la course aux armements mène à la ruine du bien commun. Pourtant, la paix n'est pas simplement l'absence de guerre, mais le fruit de l'ordre voulu par Dieu. Elle suppose la justice, la dignité et la lutte contre les causes structurelles de la pauvreté et de la corruption. Pour lui, une paix durable au Congo suppose une paix continentale fondée sur la fraternité et la souveraineté partagée. Car selon lui, les conflits congolais puisent leurs racines dans des dynamiques régionales, ingérence étrangère, avidité pour les ressources, rivalité ethnique et fragilité institutionnelle.
En plus bref, l'ONG Journaliste en danger, détentrice du prix de la liberté de la presse 2025. Ce prix lui a été décerné hier mardi à Stockholm, en Suède, par Reporters sans frontières. Le secrétaire général de cette organisation de défense des droits des journalistes en République démocratique du Congo, Chivis Chivwadi, qui a réceptionné ce prix, l'a dédié à tous les journalistes congolais qui travaillent dans des conditions difficiles. Il a aussi exhorté les leaders mondiaux à s'engager activement pour une solution au conflit dans l'Est de la RDC. Des bâtiments qui abritent des écoles, un bureau administratif et un hospice de vieillards pour la population de Lubumbashi. Ces ouvrages ont été inaugurés par la ministre des Affaires sociales en séjour dans cette ville du Haut-Katanga. Des infrastructures financées grâce à la dot. Il s'agit d'une dotation de 0,3% des chiffres d'affaires des entreprises minières destinées aux communautés locales impactées par l'exploitation minière. Paul Mounanga pour plus de précisions.
L'école Kamatete, située dans la commune annexe à Lubumbashi, a été construite sur le financement de la dotation de l'entreprise minière Congo Dongfang Mining CEDEM. La ministre des Affaires sociales a aussi inauguré une école de 6 salles de classe et un bureau administratif à Mukunto, toujours dans la commune annexe à Lubumbashi. Il s'agit d'une dotation de la société minière du Katanga Somika. Il y a aussi un hospice pour personnes âgées au village Kawama dans le territoire de Kipushi. Eve Bazaïba salue cette dotation de 0,3% issue du chiffre d'affaires des entreprises minières comme étant, je cite, une très belle initiative et une opportunité extraordinaire pour nous, peuple congolais, de bénéficier d'ouvrages sociaux au profit des populations affectées par l'exploitation minière. Fin de citation. Signalons que dans la province du Haut-Katanga, plus de 60% d'entreprises minières n'ont toujours pas installé l'organisme DOT. D'après le rapport de l'ONG AfriWatch publié en septembre dernier, environ 15 sociétés seulement sont confrontés à cette exigence légale sur 58 entreprises en phase d'exploitation minière. Lubumbashi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
Redynamiser la filière sémencière, c'est le souci des agri-multiplicateurs et des compagnies sémencières de la province du Kasaï central. Ces producteurs de semences ont en effet clôturé hier mardi un atelier de concertation et d'identification de cette catégorie d'agriculture. Ces assises ont connu également la participation des bailleurs de fonds et structures étatiques qui œuvrent dans le secteur de l'agronomie. Détail avec André Katendi.
Pendant deux jours, les échanges ont tourné autour de la structuration durable et performante de l'agriculture au Kasaï central. D'après les organisateurs, l'atelier avait pour but de réfléchir sur les stratégies pouvant permettre une bonne production et assurer un appui efficace aux agri-multiplicateurs et aux cultivateurs. Les parties prenantes ont identifié les contraintes et les opportunités pour trouver des voies et moyens pouvant permettre une meilleure production. Les agri-multiplicateurs et membres des compagnies sémencières font savoir que cet atelier était d'une importance capitale. Dorcas Mitango et Chaka Okenge sont respectivement membres de l'association paysanne Pudindila et la société La Temba.
On était dans l'ignorance, mais à l'aide de cet atelier, ça nous a offert vraiment beaucoup d'opportunités. Nous avons eu aussi l'intérêt de collaborer avec les partenaires directs.
L'atelier nous a permis d'abord de créer un réseau d'agri-multiplicateurs, puis nous a permis d'être autonomes. Ça veut dire qu'on ne dépend plus des ONG qui vont venir. Maintenant, on s'assume comme entreprise sémencière.
Le PNDA promet d'accompagner au quotidien ces agri-multiplicateurs et compagnies sémencières pour favoriser la meilleure production au Kasaï central. Kananga, André Katindengala Moulumé, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, plus le temps passe, plus l'étendue des atrocités commises par les paramilitaires des forces de soutien rapide se confirme. Selon différents rapports des organisations humanitaires, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis contre des civils démunis visant les habitants d'El Fasher, tout comme ceux qui tentaient de fuir la violence depuis le 26 octobre dernier, date de l'entrée des FCR dans cette ville du Darfour Nord, encerclée depuis un an et demi.
L'invité.
Dans plusieurs provinces de l'Est de la RDC, des enfants continuent d'être enrôlés ou utilisés par des groupes armés, malgré les appels répétés à mettre fin à cette pratique. Face à cette situation, la MONUSCO et ses partenaires multiplient les efforts pour protéger les enfants et favoriser leur réintégration dans la vie civile. Le chef intérimaire de la section protection de l'enfant de la MONUSCO, Mathieu Ndongo-Koni, qui est notre invité, revient sur la situation actuelle et les stratégies de prévention mises en œuvre. Ils sont entretien avec Martial Papimukeba.
Mathieu Ndongo-Koni, bonjour.
Bonjour Radio Kapi.
Quelle est aujourd'hui la situation des recrutements et de l'utilisation des enfants par les groupes armés dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika?
Le constat global que nous faisons aujourd'hui, c'est que le recrutement et l'utilisation des enfants, notamment par les groupes armés à l'Est de la République démocratique du Congo, est la violation grave la plus documentée par les Nations Unies. Vous savez qu'à côté du recrutement et l'utilisation, il y a d'autres graves violations qui sont les enlèvements d'enfants, les violences sexuelles contre les enfants, les meurtres et mutilations d'enfants, les attaques contre les écoles et les hôpitaux et le refus d'accès pour l'assistance humanitaire. Généralement, l'ONU documente 6 graves violations qui ont été définies par la résolution 16-12 du Conseil de sécurité, et le constat, c'est que le recrutement et l'utilisation, c'est la violation la plus récurrente, et notamment du fait des groupes armés.
Dans l'Est de la RDC, ça continue?
Exactement, ça continue parce que le conflit armé continue et que les parties au conflit, que ce soit les groupes armés, veulent renforcer leurs effectifs, et généralement les groupes armés ciblent au niveau des communautés, au niveau des villages, les enfants qui font partie de la communauté.
Quels sont les groupes qui se sont beaucoup plus illustrés ces dernières années dans les recrutements et l'enrôlement d'enfants?
Pendant toute l'année 2024, le M23, évidemment, les ADF, Codeco, des groupes Raya Mutomboki et les groupes Nyantura.
En termes des chiffres, vous avez des statistiques?
Les chiffres officiels publiés par le bureau du secrétaire général pour l'année 2024 et pour toute la RDC, il y a eu un total de 2365 cas de recrutement et utilisation par les groupes armés opérant à l'Est de la RDC.
Quelles stratégies communes sont mises en place pour renforcer la coordination entre les acteurs de protection de l'enfant dans ces provinces souvent marquées par l'insécurité?
Il y a déjà une stratégie de prévention qui est importante. Donc il y a la prévention par l'éducation, il y a la prévention par la formation des acteurs aux droits de l'enfant, au respect des droits de l'enfant. Il y a la prévention aussi en mettant en place les systèmes d'alerte précoce, un système de collecte rapide d'informations, un système de partage d'informations. Et puis aussi, il y a ce travail de prévention parce que nous demandons à la société civile, aux associations, aux ONG et même aux organisations de nommer des points focaux protection de l'enfant pour pouvoir interagir avec nous, échanger avec nous lorsque nous avons des allégations à vérifier. Et ce sont ces points focaux-là qui viennent aussi dans nos formations, etc. Ainsi qu'en créant ce réseau au niveau des associations de la société civile et même au niveau de certains groupes armés, il y a des points focaux qui travaillent avec nous. De même que ces points focaux existent pour les FACDC et la PNC, c'est important d'avoir des interlocuteurs dans tous les domaines et dans toutes les couches de la communauté.
Comment la MONUSCO travaille-t-elle avec les autorités congolaises et les communautés locales pour prévenir les recrutements des enfants et favoriser leur réintégration?
Avec les autorités congolaises, nous avons un cadre qui s'appelle le groupe de travail technique conjoint. Il a été créé à la suite de l'adoption d'un plan de travail en 2012 entre l'ONU et le gouvernement. C'est un plan qui vise à stopper le recrutement et à mettre fin aux graves violations commises par les groupes armés et les forces armées contre les enfants en République démocratique du Congo. Avec les associations de la société civile, nous avons deux cadres différents. Un cadre qui est le groupe de travail protection de l'enfant au niveau niveau des provinces et au niveau national. Et nous avons un autre cadre qui s'appelle la Contre-Task Force, c'est-à-dire l'équipe spéciale pays qui travaille sur le monitoring et le reporting des allégations de graves violations contre les enfants.
Dernière question, quel message souhaitez-vous adresser aux chefs communautaires, aux parents et aux groupes armés concernant la protection des enfants et la fin de leur utilisation dans les conflits armés?
Le message que nous répétons, il est simple, il est le même. Nous disons aux parents, aux communautés, aux leaders communautaires, aux responsables politiques de s'assurer que vraiment la place de l'enfant, c'est à l'école, c'est dans la famille. Il ne faut pas laisser les enfants partir dans les groupes armés.
Mathieu Ndongo Koni, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Mathieu Ndongo Koni qui s'entretenait avec Martial Papimukeba et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal du matin coordonnée par Richard Junior Kamunga et supervisée par Lievin Mbuingavubu. Alain Ngoy, la mise en onde de ce journal est disponible sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.